paix, pâle et soudaine, comme un bonheur longtemps rêvé, comme un bonheur qu'on croit à peine avoir trouvé. Je dis la paix comme une femme, j'ouvrais la porte et tout à coup ses deux bras autour de mon âme et de mon cou. Je dis la paix, cette fenêtre qui battit l'air un beau matin, et le monde ne semblait être qu'odeur du thym. Je dis la paix pour la lumière à tes pas dans cette saison, comme une chose coutumière à la maison. Je dis la paix pour les étoiles, pour toutes les œuvres du jour, aux tuiles des toits, et pour toi l'ombre et l'amour. Je dis la paix aux jeux d'enfance, on court, on saute, on crie, on rit, on perd le fil de ce qu'on pense dans la prairie. Je dis la paix, mais c'est étrange ce sentiment de peur que j'ai, car c'est mon cœur même qui change léger, léger. Je dis la paix, vaille que vaille, précaire, fragile et sans voix, mais c'est l'abeille qui travaille sans qu'on la voie. Elle vacille, elle est peu sûre, comme un pied de convalescent. Encore écoutant sa blessure, son sang récent. La guerre a relâché ses rênes, la guerre a perdu la partie. Il en reste un son lourd qui traîne, mal amorti. Ce sont les chars vers les casernes qui font encore un peu de bruit. Nous danserons dans les luzernes jusqu'à la nuit. On reconstruira par le monde les merveilles incendiées. La vie aura la taille ronde sans mendier. De notre front et l'immense laboratoire où les miracles sont humains, et la colombe de l'histoire entre nos mains.
Bonsoir, vous écoutez bien l'émission Vendémiaire de ce 9 mars 2015 avec Jean-Pierre dans les studios, Jean et Maria, pour évoquer Ilsa Triolet, la 12e émission de notre série. Le morceau que vous venez d'entendre est un morceau, un texte de Louis Aragon, mis en musique et interprété par Jacques Ivar, Le Chant de la Paix. Et vous allez voir au fil de cette émission qu'il n'est pas sans rapport avec le contenu de ce soir où nous allons aborder les années 50. Avant de donner la parole à mes invités, je vais quand même vous dire que cette 1114e émission pour moi le lundi soir à 20h de Wistentlac puis de Vendémiaire est la dernière sur ce créneau horaire que à partir de jeudi prochain. Nous nous retrouvons le jeudi matin de 10 à 11h où l'émission Vendémiaire poursuit sa carrière. Voilà, Jean, Elsa, donc Jean et Maria, pardon, la parole est à vous.
Bien, bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir à vous
bonsoir tous. Bonsoir à tous, oui. Alors, on pourrait peut-être commencer en signalant les événements actuels qui se déroulent organisé par la mairie du 3e arrondissement de Lyon. La semaine dernière, on a donc lancé une quinzaine, hein, on peut dire, autour d'Elsa Triolet, avec l'exposition Elsa la Rebelle, qui avait été conçue par Maria et Jean Albertini. Donc l'exposition s'est déroulée dans la salle d'exposition de la mairie du 3e et depuis samedi dernier, elle est actuellement à la MJC
de Montchat,
donc quartier du 3e arrondissement, là où on l'a évoqué, Louis et Elsa se sont réfugiés entre le 31 décembre 1942 et le 1er juillet 1943. Donc chez René Tavernier, hein, on va pas revenir là-dessus, on en a parlé. Donc il y a une série de manifestations qui ont eu lieu et qui vont continuer d'avoir lieu jusqu'à vendredi prochain.
Hein. Donc, alors ce voilà, que je voulais ajouter, Jean, si tu le permets, c'est que c'était dans le cadre de la Journée de la Femme. Alors en tant que femme, je vais dire deux mots. Pour le 8 mars, on était parti pour une seule journée et puis finalement. Ça s'étale sur 15 jours. Alors, il reste encore à faire toute cette semaine. On a des familles qui vont venir voir l'exposition à Montchat. Et puis, il y aura également une lecture de textes d'Elsa Triolet dans un restaurant qui s'appelle La Cour des Miracles. Il y aura également, donc on avait dit, le vendredi 13.
C'est Cour du Docteur Long, hein.
Oui, c'est Cour du Docteur Long. Et puis, il y aura également... vendredi, donc Marie-Thérèse Échard, oui, qui tiendra une conférence. Et puis, entre-temps, il y a des chants, il y a des ateliers colliers, puisque l'écolier Elsa Triolet s'en était occupée. En fait, ce qui est important, c'est que Elsa Triolet, qui a donné le nom à ce lieu de vie à Montchat, ce qui est important, c'est que on la fasse connaître. Et puis, ce qui a été très agréable, et on a été très bien surpris pour ça, c'est qu'il y a un grand engouement, et c'est très fréquenté pendant ces 15 jours. Alors, j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin. Donc, je vous donne rendez-vous à Montchat. Il y a les programmes, et vous verrez tout ça. Et tant mieux pour la Journée de la Femme.
Voilà, il y a eu également une très forte implication des jeunes élèves, hein. Ce matin, par exemple, on a reçu des CM2, des élèves du collège. Et ça, quand même, je pense qu'il faut saluer à l'initiative de ces deux semaines. Ben, Roland Jacquet, élu du 3e arrondissement, et Gaël Joly-Giacometti, qui est responsable de la MJC du Elsa Triolet, qui vraiment... font un travail de fond, quoi, hein, vraiment,
oui, tout à fait.
En impliquant vraiment là, c'est pas simplement une série de conférences très universitaire. Enfin, il y a vraiment une implication des jeunes, et puis donc on va recevoir aussi des adultes, des parents, des ateliers. Enfin bon, c'est vraiment un beau travail, quoi. C'est une journée de la femme qui, en fait, dure 2 semaines, quoi. Voilà.
Si elle pouvait durer toute l'année, c'est encore mieux.
Voilà. Et donc, bon, ben, on va en venir à notre thème de ce soir, qui est un épisode, on pourrait quasiment l'appeler le désenchantement, quoi. Hein, parce que, donc, il y a eu ce moment un peu héroïque de la résistance. Concernant notre personnage, Elsa, c'est vraiment le moment où elle se révèle, hein, elle découvre vraiment ça peut paraître paradoxal, mais elle découvre à travers son action la femme qu'elle est en réalité. Les possibilités qu'elle a, que ce soit en tant que femme d'engagement, en tant qu'écrivaine, bien sûr, hein, puisque faut quand même pas oublier qu'outre le prix Goncourt dont on a parlé, elle est également l'auteur d'un de ses romans les plus longs, qui est donc Le Cheval Blanc. Alors, pourquoi est-ce que...
Le Cheval Blanc ou Le Cheval Roux?
Non, Le Cheval Blanc qu'elle a écrit pendant la guerre, Le Cheval Roux, va paraître en 53. On va terminer l'émission là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une peinture de Fernand Léger qui est au moulin, ça me fait penser. C'est une assiette avec d'un côté un cheval blanc et de l'autre côté un cheval roux. Hein, ça a été souvent repris, je crois, que dans les œuvres romanesques croisées, ça a été reproduit. Voilà. Alors Elsa, finalement, il y a cette métamorphose d'Elsa. Moi, je suis très frappé par ça. Finalement, quand elle se met à écrire en français, les livres dont on a parlé, Bonsoir Thérèse, Mille regrets. On a un peu affaire à une, je dirais, c'est pas péjoratif, parce que c'est aussi, moi, une écrivaine que j'aime bien, mais on a un peu affaire à une Françoise Sagan, hein, bon, qui est une bourgeoise un peu tourmentée, etc., bon. Et là, tout à coup, on va se trouver face à une militante, et c'est cette femme qu'on va aborder ce soir. Alors bon, tout ça, c'est pas exempt de contradictions, hein, parce qu'on va entrer dans la guerre froide. Alors, le désenchantement, c'est que, on le trouve d'ailleurs, moi je conseillerais, quand on veut comprendre ça, de lire un livre comme Les Fantômes Armés, où on a justement cette série de personnages qui sont des héros de la résistance et qui n'arrivent plus à se retrouver dans la vie courante. C'est-à-dire que les idéaux qu'ils ont partagés dans le combat contre le nazisme, ils arrivent plus, ils s'y retrouvent plus. Alors pourquoi? Ben tout simplement, c'est que la guerre étant terminée, ben on voit réapparaître des collabos, des écrivains, parce que, alors, on en a parlé la dernière fois, il y a cette liste noire des écrivains collaborateurs. Alors avec, bon, ben comme toujours, bon, ben les injustices qu'il y a, bon, c'est compliqué. D'ailleurs, Elsa, on en a parlé aussi, a abordé cette question de l'artiste, parce que on l'a dit, on le redira sans cesse, Elsa a toujours le souci du statut de l'artiste par rapport aux politiques. Quelle est sa responsabilité? Quelles sont ses obligations? Quels sont ses devoirs? Hein, et c'est cette nouvelle, la vie du peintre Alexis Slavski. Ou donc ce peintre qui, bon, finalement, s'occupe pas des événements. Et Elsa se penche sur cette question. Alors, on est sorti de la guerre. Alors, il faudrait peut-être, pour commencer, quand même rappeler quelques événements historiques. Hein. Ce qu'il faut rappeler, c'est que, bon, évidemment, à la fin de la guerre, il y a une sorte d'union sacrée, le gouvernement provisoire du général de Gaulle, avec des écrivains communistes, des ministres communistes, hein, dont Ambroise Croizat, par exemple. La sécurité sociale, enfin bon, c'est la grande période faisant suite donc à ce rapport de force, hein, que les résistants communistes ont su établir. Et puis on va assister, et ça c'est une clé pour comprendre tout ce qu'on va dire ce soir, on va assister au début de la guerre froide et donc à la démission des ministres communistes qui va se dérouler qui va avoir lieu en 1947, hein, où les ministres communistes vont quitter le gouvernement. Alors voilà, ça c'est pour situer le contexte. Après, on reviendra sur les événements internationaux, bon, l'Europe qui se divise, l'Est, l'Ouest, etc. Alors, Elsa, dans ce contexte, elle va être une animatrice du CNE, donc qui est le Comité National des Écrivains, hein, donc qui a été fondé pendant la guerre, hein, donc avec également une Union Nationale des Intellectuels, hein, un organisme issu donc de l'unification de tous les comités d'écrivains, juristes, professeurs, etc., sortis de la clandestinité. Elle s'occupe donc de trouver un siège à Paris, etc. Et pendant une quinzaine d'années, Elsa, donc, qui est devenue, et c'est ça qui est un peu surprenant dans son itinéraire quand on pense à la jeune Elsa, un peu légère, un peu insouciante, etc. Elsa va s'activer donc pour organiser la vente du CNE, donc du Comité National des Écrivains. Et aujourd'hui, bon, c'est devenu une banalité. Puisque bon, des fêtes du livre, il y en a un petit peu partout. Il y en avait une, bon, à Bron,
cette semaine,
oui. Et puis il y en a partout. Un moindre village organise sa fête du livre. Donc, le principe est tout simple. Hein, il n'a pas changé. C'est encourager les auteurs à venir vendre leurs livres, en parler, rencontrer leur public, etc. Et ça correspond à un modèle un peu qui est celui de l'Union soviétique, hein, puisque il y a Maïakovski qui haranguait les foules, bien sûr, et donc cette rencontre de faire descendre l'auteur de son piédestal, hein, je suis le grand écrivain, etc. Alors on va lire un extrait d'une lettre qu'elle a écrite à Lily, hein, c'est une source inépuisable de renseignements, une lettre donc qu'elle avait écrite le 26 octobre 1952 à propos donc d'une fête du livre organisée. À l'époque, c'était au Vélodrome d'hiver. Alors, je rappellerai aux plus jeunes, donc le Vélodrome d'hiver, le fameux Veldiv, qui a perdu son âme, hein, en devenant le lieu de rassemblement des Juifs qui étaient déportés et qui étaient détruits, parce que moi je me souviens quand j'étais, il y avait l'arrivée du Tour de France, donc il a été détruit, je crois, dans les années 50. Hein. Moi, je me souviens bien du Veldiv. Enfin, on en parlait, quoi. Et donc, voilà, elle évoque cette fête du livre, donc du 26 octobre 1952.
Notre vente du livre annuel s'est tenue hier, dans la plus grande salle de Paris, où ont lieu de gigantesques meetings, des courses cyclistes, des courses d'obstacles, etc. Quand j'ai loué la salle au mois de juin, on m'a considéré avec effroi et pitié. Même le directeur du Veldiv, le Vélodrome d'hiver, a tenté de me dissuader. Et quand j'ai vu la date approcher, j'ai moi-même été prise de panique. Mais je ne pouvais plus revenir en arrière. La vente a eu lieu et elle a eu un succès fou. Il y a eu environ 30 000 visiteurs. On a vendu pour 5 250 000 francs de livres. Il fallait faire la queue dehors pendant une heure avant de pouvoir entrer. Aragocha a vendu pour un montant de 400 000 francs, plus que tout le monde. Viennent ensuite, presque à égalité, Dex, Éluard, Eiffel et moi. J'ai fait une recette de 225 000 francs avec presque à elle seule, l'anthologie de Maïakovski. Mon public ne comptait que des gens de 20 ans. J'ai l'impression que tous les jeunes poètes de Paris sont passés devant moi en rang serré.
Alors, ces manifestations, Elsa va les organiser en rassemblant d'autres artistes. C'est vraiment une autre conception de la culture qu'elle va mettre en place. Puisqu'il y a les écrivains, mais également elle va faire venir les vedettes de l'époque, bon, en particulier Léo Ferré, et également bon Gérard Philippe, hein, qui est le grand acteur de cinéma et le grand comédien de théâtre qu'il va devenir grâce au TNP de Jean Villard, ou également quelqu'un qui est extrêmement populaire comme le mime Marceau, hein, qui vient le visiter. Puis quand on voit les photos des différentes fêtes du livre, il y a je pense à Edith Piaf par exemple, hein, donc chanteuse extrêmement populaire, qui viennent assez régulièrement. Voilà. Alors, quelle est la raison profonde ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de la guerre, Dieu sait si on parle du débarquement américain, les Américains ayant joué leur rôle. Bon, mais il y a eu également l'Union soviétique. Hein, la bataille de Stalingrad a été quand même décisive dans l'évolution du conflit. Puis on peut quand même préciser que jusqu'en 1944, les États-Unis ont quand même reconnu le gouvernement Pétain comme étant légitime, ce qui était quand même contraire à la résistance, qu'elle soit gaulliste ou communiste. Alors, cette victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et sur l'Italie mussolinienne, c'est quand même donnant-donnant, hein, comme toujours, et est apparu le plan Marshall, lequel plan Marshall, comportant des aides, bien sûr, mais également culturellement, faut bien comprendre qu'une aide matérielle, elle est toujours quand même solidaire d'une idéologie qui l'accompagne. Et Elsa s'est très rapidement indignée de ce déferlement de la culture américaine qui a accompagné le plan Marshall. Alors notamment, elle a pris pour cible deux écrivains. C'était Henry Miller, donc, qui avait fait une trilogie romanesque, et également Arthur Koestler. Elle s'est battue contre cette influence de la littérature américaine. Alors, peut-être plus discutable pour nous, parce que c'est quand même des écrivains qui étaient, qu'on a tous lu une certaine génération. C'est Sartre et Camus, c'est-à-dire ce déferlement d'une littérature existentialiste, faite de, bon, un petit peu de questionnements sur le sens de la vie, l'absurde, etc. Et là, je pense qu'Elsa, parce que bon, faut quand même essayer de réfléchir à ses raisons, elle était justement dans la poursuite de cette héroïsation du combat de la résistance, qu'elle voulait pas, elle voulait pas lâcher ça. Donc toute cette littérature, un petit peu, elle a vraiment épousé le combat de la classe ouvrière, quoi. La classe ouvrière, elle voulait le poursuivre. Et encore une fois, ce livre assez étonnant, Les fantômes armés, il rappelle ça en permanence, quoi. Ces personnages, mais qui sont complètement paumés, hein. Il y a des communistes, il y a des gaullistes, mais ils savent plus, ils reconnaissent plus le monde pour lequel ils se sont battus. Et puis alors, on voit évidemment revenir au premier plan, je pense par exemple à un écrivain comme Marcel Jouhandeau, qu'on voit revenir au premier plan, comme si c'était rien passé, ou même bon, un écrivain comme Henri Monterland, bon, qui va connaître sa pleine gloire, par exemple au théâtre, quoi. Henri de Monterland devient quasiment, à la Comédie française en particulier, un auteur officiel, quoi. Il est extrêmement joué. C'est quelque chose d'assez sidérant, quoi, pour des gens comme Aragon et Elsa. Et d'ailleurs, Elsa réagit beaucoup plus vigoureusement qu'Aragon. Voilà. Alors, il y a ce qu'elle dit sur Camus, justement. Elle a été proche de Camus, hein, parce que Camus a été un résistant. Hein, et donc, elle se détache de lui parce que, bon, ben, Camus, lui, la guerre terminée, bon, se fait un partisan de la grande littérature, la haute littérature, en oubliant, justement, les combats. Hein, une littérature un peu au-dessus des contingences matérielles, des luttes, etc. Hein. Et c'est là où elle a cette citation qui est assez dure par rapport à Camus. Et dans ma main tendue, il avait mis une pierre.
C'est vrai que c'est dur.
Ça, c'est vraiment dur, quoi. Hein. Ouais. Mais alors, en même temps, Elsa, parce qu'elle a écrit beaucoup de textes pour organiser ce qui va devenir la bataille du livre, elle défend en même temps l'avant-garde artistique.
Et alors, elle écrit ce texte. L'avant-garde de l'art nous intéresse, car l'art nouveau, c'est celui qui jette une lumière nouvelle d'un point de vue nouveau. Sur l'univers, sur l'homme, les moutons sous le lit, chaque brin d'herbe dans les champs, les virus filtrants et les étoiles.
Et oui, vas-y.
Oui, oui, oui. Et puis elle continue par ce texte aussi, l'écrivain public. L'écrivain public, celui qui exprime, pour ceux qui ne savent pas écrire, l'écrivain public, celui qui, comme le magicien d'autrefois, exorcise la foule, qui, comme le psychanalyste d'aujourd'hui, cherche à libérer en nommant les mots qu'elle ne sait pas préciser. L'écrivain public, celui qui épouse et devance l'événement, qui l'exprime et le commente, le devine et l'éclaire socialement et poétiquement parlant.
Voilà, et elle établit un lien très fort entre l'activité artistique et l'appartenance à la gauche. C'est-à-dire, elle a vraiment une conception très exigeante, justement, de ce qu'elle appelle l'écrivain public. Ce que le texte que Maria vient de lire, qui définit justement ce qu'est l'écrivain public. Et on peut dire qu'avant Malraux, donc qui va fonder les fameuses maisons de la culture, elle préfigure un petit peu ce mouvement en essayant de développer une culture pour tous, voilà, et en refusant surtout ça. Je crois que c'est vraiment un thème extrêmement important. Il n'y a pas une culture des riches, une culture des pauvres. Hein, et moi, je pense toujours à cette phrase que je trouve magnifique d'Antoine Vitesse, qui a été un peu plus tard le secrétaire d'Aragon, quand il a pris la direction du théâtre de Chaillot, puis ensuite de la Comédie Française, qui disait « il faut être élitaire pour tous ». Et ça, je pense que c'est complètement dans l'optique et d'Elsa et d'Aragon, quoi, là-dessus, hein, en disant « bon, ben, il y a une culture pour... ces oppositions qui demeurent toujours, je sais pas, on va opposer TF1 ou M6 à Arte, quoi, par exemple. Enfin, c'est des choses qui sont toujours très présentes dans notre horizon.
Ouais, je vous propose une pause musicale. On va la faire sur le thème de cette influence des Américains qui débarquaient avec leur plan Marshall. Une chanson interprétée par Francis Castleville, l'auteur-compositeur et interprète aussi, Pierre Sellos, bien oublié aujourd'hui, a laissé quelques petites choses assez intéressantes comme cette chanson « Vent d'Amérique ».
Le vent souffle d'Amérique, que nous apporte le vent. Le vent souffle d'Amérique, que nous apporte le vent. Des miracles atomiques pour étonner les enfants. Des gestes pour la misère, des jaunes qu'ils aiment tant. Et qui cultivent la terre sous les bombardiers géants. Alléluia, alléluia, enfants du vieux continent. Qu'ils reviennent, le temps du débarquement. Le vent souffle d'Amérique, que nous apporte le vent. Des paradis mécaniques pour amuser les enfants. Des leçons pour savoir faire régner la paix au-dedans. Qui nous viennent de la terre, du pays des présidents. Alléluia, alléluia. Du vieux continent, qu'ils reviennent, le temps du débarquement. Le vent souffle d'Amérique, que nous apporte le vin, des sucreries élastiques pour faire marcher nos enfants. Ils auront le regard fier, le regard des ruminants qu'on voit courir sur les terres au pays des grands et grands. Alléluia, alléluia. Continent, qu'il revienne, le temps du débarquement. Le vent souffle d'Amérique, que nous apporte le vent. Des histoires magnifiques pour faire rêver les enfants. Des chansons contre la guerre, pleines de bons sentiments. Qui nous viennent de la terre, du pays du Ku Klux Klan. Alléluia, alléluia. Continent, qu'ils reviennent, le temps du débarquement. Alléluia, alléluia, enfants du vieux continent, qu'ils reviennent,
Marcelos pour les paroles et la musique, Francis Casselville pour l'interprétation. C'était Vent d'Amérique. Et nous retrouvons Jean et Maria pour évoquer Elsa Triolet dans cette 12e émission de la série.
Voilà, donc je pense que pour bien comprendre quand même cette histoire complexe, ce contexte de la guerre froide, donc il est nécessaire quand même de rappeler quelques dates. Le plan Marshall, ce fameux plan Marshall, il démarre le 5 juin 47. Hein, et alors il s'appuie sur l'OECE, qui est l'Organisation Européenne de Coopération Économique, qui va devenir en 1960 l'OCDE. Hein, on va changer le sigle, qui va signifier Organisation de Coopération et de Développement Économique. Mais ce développement économique, évidemment, passant par, sur le plan du... puisqu'on va considérer la culture également comme étant un marché, des produits, de la marchandise, donc ça va passer effectivement par une diffusion massive. Alors aujourd'hui, il suffit de prendre les 20 et quelques chaînes de télévision pour se rendre compte, je sais pas moi, qu'à 90% les séries sont américaines. Enfin bon, là la victoire est à peu près totale. Hein. Cela dit, il y a des grands bouleversements en Europe. Bon, je vais le rappeler parce que tout ça, bon, c'est vrai que ça devient de l'histoire ancienne. Le 26 février 1948, les communistes donc prennent le pouvoir à Prague. Et donc là, on va assister à un bouleversement de ce qui va devenir la Tchécoslovaquie. Le 28 juin 1948, par contre, le Cominform, qui est la nouvelle organisation soviétique, donc qui contrôle tout ça, condamne le Parti communiste yougoslave, et les plus anciens se souviennent de cette accusation abominable qui consistait à être traité de titiste, hein, le maréchal Tito étant le dirigeant de la Yougoslavie, qui voulait un système un peu autogestionnaire, et dans les rangs du Parti communiste de l'époque, être traité de titiste, c'était être traité de trotskiste, mais bon, tout ça, c'était... Il y avait des séries comme ça d'anathèmes qui nous font sourire aujourd'hui, mais qui étaient terribles. Et je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait eu un match de football opposant la Yougoslavie et l'URSS, et l'URSS avait été vaincue, et le journal L'Humanité n'en avait absolument pas rendu compte. C'était pas possible que la Yougoslavie de Tito batte l'Union soviétique de Staline, hein, bien sûr. Donc Elsa et Aragon sont vraiment dans le combat, hein, et notamment, faut pas oublier qu'Aragon est toujours directeur du quotidien, donc du soir, ce soir. Donc il va s'attaquer au maccartisme, donc dans un article qui s'intitule « Est-ce le fascisme en Amérique ?». Donc ils sont très très combatifs, hein, bien entendu. Et à partir de ce moment-là, il y a quand même en France, et ça va devenir difficile, enfin les plus anciens pourront en témoigner, dans l'administration française, je pense par exemple dans l'enseignement, hein, que je connais le mieux, je sais que par exemple les communistes de l'époque, par exemple, je pense à quelqu'un comme Lucien Say, par exemple, qui normal sup, brillant agrégé de philosophie, il n'a jamais pu enseigner à l'université. Hein, il a toujours été bon en tant que chercheur, etc. Bon, l'université quand même offre des conditions pour poursuivre un travail de recherche, et on l'a toujours soigneusement mis dans des lycées. Des lycées de province, d'ailleurs, il était prof à Marseille, enfin, ça n'a rien de déshonorant, mais enfin, avec un emploi du temps, bon, chargé, etc., ce qui était quand même une manière de freiner son ascension. Hein. Il y a eu cette répression très virulente dans ces années-là contre le Parti communiste. Et il y a une phrase que j'ai relevée, une phrase de propagande, c'était « Le Parti communiste n'est ni de droite, ni à droite, ni à gauche, il est à l'Est ». Voilà, donc c'est toujours le soupçon de l'étranger, agent de l'étranger, etc. Et c'est là, concernant Elsa, où on a vu des choses comme elle est un agent du KGB, etc. Il y a un peu cette malédiction sur Elsa, d'ailleurs, qu'on constate depuis quasiment le début de nos émissions, quoi. Voilà. Alors bon, toujours puisqu'on est dans les dates, donc le 4 mai 47, donc c'est Ramadier qui, bon, sans polémique aucune, mais c'est un socialiste qui révoque les ministres communistes. Voilà, donc les ministres communistes qui donc étaient dans le gouvernement d'union du général de Gaulle, qui se sont trouvés donc évincés de toute fonction ministérielle. Et dans les administrations, cette répression s'est trouvée renforcée. Alors à l'intérieur du CNE, il y a eu évidemment des répercussions. Bon, il y avait eu les procès après-guerre, etc. Et tout ce mouvement s'est divisé, et notamment quelqu'un d'extrêmement important qui était très proche d'Aragon et d'Elsa, qui était Jean Paulhan. Jean Paulhan qui occupait des fonctions extrêmement importantes à l'intérieur de la NRF, hein, donc chez Gallimard, et qui a quitté le CNE, dont il a jugé la ligne trop dure. Et effectivement, Elsa considérait qu'on peut pas passer l'éponge comme ça sur des gens qui ont été des collaborateurs, des traîtres, etc. Et alors, suite à ça, alors je vais pas revenir là-dessus parce que ça concerne davantage Aragon et qu'il en avait été question dans les émissions que Jean Albertini avait consacrées à Aragon, et puis il était très pointu sur cette affaire-là, c'est que il y a l'affaire Nizan. Bon, je rappelle que Aragon, dans son vaste roman Les Communistes, a dépeint, parce que donc Nizan, hein, a quitté le Parti communiste au moment de la signature du pacte germano-soviétique. Bon, il est mort très rapidement, et le Parti communiste a fait de Nizan un traître, hein, qui avait abandonné le navire. Et il se trouve que Nizan était condisciple de Sartre à Normale Supérieure. Ils étaient très liés, ils étaient très amis. Et voilà que en 1947, alors oui, Aragon dans Les Communistes dépeint le personnage de Nizan sous un nom de fiction, hein, c'est un personnage qui s'appelle Orfila, qui est bon ben effectivement un personnage très ébranlé par le pacte germano-soviétique. Et bon, le portrait est peu flatteur pour en référence au vrai Nizan. Et Sartre attaque Aragon là-dessus. D'ailleurs, Aragon, dans la réécriture qu'il fera des communistes en 64, supprimera les chapitres concernant. Mais en fait, il y a peu de choses. Hein. Il y a deux chapitres, mais il supprimera complètement ce passage. Mais enfin, tout ça, c'est une ambiance quoi qui pour eux est extrêmement extrêmement lourde. Alors voilà ce que Elsa, donc, qui supporte très très mal ce climat, écrit à sa sœur Lily, donc on est en 1948, le 15 avril 1948 exactement.
Ici, on a écrit contre nous des articles, petits et grands, où on nous traite de tous les noms, hier. Ce soir a été saisi. Bref, c'est comme en 1939, sauf que cette fois-ci, il n'y aura pas la guerre. Les attaques contre Elsa ne cessent pas et elle écrit à nouveau à Lily. Mon article des lettres a fait tant de bruit.
Les lettres françaises. Qui est l'hebdomadaire.
Mon article des lettres a fait tant de bruit que je m'en mords les doigts. L'intransigeant titre sur toute la longueur de sa page « Panique à Moscou, Elsa Triolet ne vend plus ses livres ». Et sur la moitié d'une page, il me tape dessus à coups redoublés, me traite à coups redoublés encore, me traite de tous les noms. Depuis que nous sommes revenus de Prague, la presse fait un boucan de tous les diables.
Voilà, donc Elsa va prendre une ligne qui est assez dure et intransigeante, hein, qui est la défense du livre français de gauche. Dans les attaques qui ne manqueront pas contre elle, et voire même des choses qu'on entend toujours, c'est qu'on lui reprochera d'avoir une position nationaliste en faveur du réalisme, d'un réalisme socialiste étroit. Bon, ce qui demande quand même une analyse beaucoup plus approfondie, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, donc il y a vraiment alors ça lutte quoi, hein, c'est cette lutte contre la littérature, la littérature à scandale américaine, ou également par exemple le déferlement du roman policier, hein, le roman policier, bon par exemple la série noire de Marcel Duhamel, qui comporte d'ailleurs des titres intéressants, hein, mais et en plus quand on va au moulin on découvre qu'Elsa était une grande lectrice de polar, mais elle attaque justement le roman policier violent, l'érotisme aussi, l'érotisme qui déferle, mais sans doute parce qu'on a fait passer Elsa pour une prude, etc. Je pense quand même que ce qu'elle perçoit, c'est que l'érotisme devient une marchandise, quoi. Aujourd'hui, quand on voit l'évolution de cette question, bon, je pense que c'est quand même assez facile à comprendre, quoi.
La cause est entendue.
Oui, la cause est entendue. Voilà. Alors, elle va progresser dans son engagement, hein, et elle va succéder à Aragon comme secrétaire générale du CNE. Alors, pourquoi? Parce que Aragon, donc prend des fonctions de plus en plus importantes au sein du Parti communiste. Il est élu membre suppléant du comité central au congrès de Gennevilliers en 1950, puis il est élu membre titulaire en juin 1954. Donc c'est elle qui le supplée, hein, qui le remplace. Voilà. Alors... sur cette période, bon, les choses sont quand même assez complexes. Bon, on est en pleine guerre froide, donc il y a les États-Unis d'un côté, forts de leur triomphe, hein, face au nazisme, et puis de l'autre côté, bon, il y a l'Union soviétique. Et alors, bon, évidemment que ce qu'on peut reprocher à Elsa et à Aragon, et Dieu sait si on leur reproche, c'est que dans cette lutte, ils occultent complètement l'aspect répressif quand même qui s'abat sur l'Union soviétique. Ça, là-dessus, il y a par exemple, pour citer à cette époque la fameuse polémique autour du biologiste Lysenko, donc ce généticien qui mêle science et idéologie en établissant quand même une distinction assez curieuse qu'il existe une science bourgeoise et une science prolétarienne. Et dans la revue Europe, Aragon, qui est médecin quand même, hein, qui a une formation scientifique, Aragon défend et argumente les thèses de Lysenko. Bon. Ce qui amène, par exemple, des gens qui sont aux côtés du Parti communiste, je pense à Jean Rostand, qui est un biologiste éminent à l'époque, hein, qui a disparu maintenant, il y a bien peut-être 25-30 ans, qui démissionne, enfin des gens qui s'éloignent du Parti communiste à cette époque-là. Hein. Alors ça, bon, bien sûr, on peut leur reprocher. Mais d'un autre côté, il y a d'autres éléments qui apportent la nuance. En 1947, bon, il y a donc un raidissement idéologique important, et notamment les Jdanoviens. Hein, Jdanov est le théoricien de l'esthétique stalinienne, hein, pour faire un raccourci, sont attaqués. Donc c'est par un intellectuel russe, Simonov, qui attaque Picasso et Matisse. Et en des termes, bon, qui rappellent quand même de très mauvais souvenirs historiques, en disant qu'il y aurait en Europe un art dégénéré. Hein, comme d'autres dans les années 30 le disaient, c'est-à-dire...
Les nazis.
Évidemment les nazis. Et là, on voit se dresser avec beaucoup de vigueur Aragon et Elsa dans un rapport, d'ailleurs, qui a été traduit il n'y a pas si longtemps, puisque c'est l'honneur de la société des amis d'Aragon d'avoir traduit des notes, bon, qui sont sans doute imparfaites parce que la secrétaire, il y a des manques, mais enfin, on a traduit et publié dans la revue Les Annales. C'était d'ailleurs encore du temps de Jean Albertini. On a publié le contenu de cet échange qui est très vigoureux, quoi. Aragon, ne cédant, il lutte pied à pied là-dessus et défend donc défend Picasso et
Matisse.
Et Matisse. Et il y a cette phrase quand même d'Aragon que je voudrais citer, qui est très forte quand même. N'attendez jamais de moi que je donne l'art français pour les intérêts d'un groupe d'écrivains et peintres soviétiques. Et c'est vrai que les propos de Simonov, bon, sont évidemment inacceptables. Et je voudrais également citer un autre écrivain, bon, qui est dans cette mouvance, c'est Fadeyev qui écrit quand même cette phrase qui est très étonnante. Si les chacals apprenaient à taper à la machine, si les hyènes savaient se servir d'un stylo, il est certain que leurs œuvres feraient penser à celles de Miller, donc le fameux Henri Miller, Eliot, Malraux et autres Sartre. Alors, il y a vraiment... Alors bon, bien sûr que... alors Aragon et Elsa, bon, au milieu de tout ça, bon, alors, certains, bon, ils attaquent Miller, mais Sartre, par exemple, fait partie du CNE, quoi. Hein, et puis, bon, Sartre est quand même un compagnon de route. Bon, on lui a assez reproché, d'ailleurs, ses erreurs. Enfin, bon, bref. Donc, il y a une espèce d'amalgame que les Russes leur rendent quand même pas service. Et à ce moment-là, bon, c'est sur cette période-là qu'on les traite le plus de staliniens. Bon, mais franchement, ils sont quand même dans une situation qui est drôlement difficile, quoi. Alors bon, leur faire un procès, c'est complexe, quoi. Ils sont vraiment dans une situation très complexe. Donc voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, c'est la vie,
ça.
La vie qui est compliquée à cette époque-là, quoi.
Il nous reste 10 minutes. Je pense pas que tu arriveras au bout du programme que tu t'étais donné, mais c'est peut-être pas très grave. On va avancer.
On va avancer, oui.
Puis on verra bien.
Oui. Alors, simplement, bon, Elsa fixe une action militante dans le cadre du CNE. Alors, il y a trois thèmes majeurs quand même qu'il faut qu'on cite. C'est la sauvegarde de l'esprit de la résistance, hein, qui était à l'origine du CNE et sa raison d'être. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est la bataille du livre, et on va revenir là sur la bataille du livre, et la diffusion d'une littérature progressiste qui s'inscrit contre le déferlement en France d'une certaine littérature américaine qui est effectivement très mercantile. Et ça, je pense que là-dessus, c'est quelque chose qui reste vrai. Et enfin, le dernier point, c'est la lutte pour la paix. La lutte pour la paix, il faut tout de suite qu'on dise deux mots de l'appel de Stockholm en 1950. Bon, bien sûr, il y a eu Hiroshima et Nagasaki, et la terreur des communistes et puis d'autres qui sont pas communistes, c'est que il y a une guerre nucléaire. Et ça va nous amener justement à l'écriture du Cheval Roux. Et donc le CNE va adhérer en bloc à l'appel de Stockholm, qui est un appel pour la paix. Hein, on dit même que, par exemple, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, que ça lui a été reproché que Jacques Chirac, quand il était jeune, avait adhéré à l'appel pour la paix et distribué le journal L'Humanité. Enfin bon, voilà, ça s'est arrêté là. Mais pour prendre un témoignage, l'autre jour avec Maria, on gardait l'exposition Elsa la Rebelle à la mairie du 3e, et on a vu une vieille dame qui est passée, qui disait « Oh là, ça m'intéresse ». Elle nous a raconté qu'étant jeune employée au PTT, elle a signé l'appel de la paix, et qu'on refusait de la titulariser à cause de ça. Donc il y a eu quand même, je
c'était
pense,
un climat... C'était des moments difficiles.
Hein, ouais, oui, c'était oui. Vraiment un climat, un climat extrêmement, extrêmement difficile. Voilà. Alors, bon, ben, tout ça, ça nous amène à... Ça nous amène donc à la bataille du livre, hein, que... Donc, alors, bataille au singulier, bataille au pluriel, hein, il y a les batailles du livre, hein, c'était donc chaque année... la première tentative a eu lieu en 48. Hein, donc l'objectif est de conjurer la baisse des ventes du livre français face à l'offensive états-unienne. Hein. Alors j'ai relevé des chiffres. Il y a eu 780 traductions au cours de l'année 1947. et qui emporte la littérature de gauche, dite de gauche, et la littérature française en général. Donc, Elsa se lance dans ce combat.
Traduction de quelle langue dans quelle langue?
De l'américain au français. Quoi, hein. Il s'agit de traduction de l'américain au français. Voilà. Et alors, Elsa pose la question. Donc, et nous, qu'est-ce que nous opposons à l'organisation de l'échec de nos livres? Comment nous défendons-nous? Que faisons-nous contre les livres que nous jugeons néfastes? Et alors, au niveau de l'édition, Aragon et Elsa vont se lancer dans la diffusion. On trouve encore chez les bouquinistes, c'est d'ailleurs Aragon qui est le directeur des EFR, hein, les éditeurs français réunis, où on va trouver dans la littérature classique, les grands réalistes français, hein, que ce soit Balzac, Flaubert, Stendhal, etc. Chez les classiques étrangers, beaucoup d'auteurs russes. D'ailleurs, Elsa Triolet va traduire le théâtre de Tchekhov, pour le faire connaître. Elle reste évidemment toujours très fidèle à Maïakovski, hein, bien entendu. Et puis, les grands russes, hein, Gogol, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Alors, où il y a peut-être une nuance à apporter, c'est que ils éditent des auteurs contemporains, hein, parce qu'on peut pas tourner uniquement avec des classiques. Alors, sans doute que la réussite est beaucoup moins convaincante s'agissant d'auteurs comme André Stil, Pierre Dex, qui vient de disparaître, qui écrit des romans, André Wurmser, Jean Lafitte, qui sont des écrivains très, pas ouvriéristes, ce serait exagéré, mais, disons, dans une ligne quand même d'un réalisme peu ouvert. D'ailleurs, quelques années plus tard, il y aura le nouveau roman qui va justement balayer. Là, sans doute, la réussite est quand même moins évidente. Mais c'est un combat dans lequel vraiment Elsa va se lancer, quoi, jusqu'à la fin des années 50. Voilà, alors ça nous amène au Chevaleroux. Hein, donc, ce danger de guerre nucléaire. Alors, quand même, puisqu'on a beaucoup parlé de dates, le dernier roman dont on a parlé à la dernière émission, c'était L'inspecteur des ruines. Et L'inspecteur des ruines, c'est 1948. Et entre 1948 et 1953, et exactement le 14 octobre, 53 paraît donc Le Chevaleroux. Donc il y a une absence, hein, 48-53, ça fait 5 ans pendant lesquels Elsa ne publie rien. Alors Le Chevaleroux, alors oui, elle explique la conception du Chevaleroux.
Eh bien, elle va aborder deux points en même temps. Oui. Cette guerre froide où il y a la peur d'une troisième guerre mondiale, et cette fois-ci, ça serait une guerre nucléaire. Et puis, parallèlement, elle parle de la vieillesse. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, je crois que De Gaulle aussi le disait, c'est une guerre dont on ne gagne pas. Donc, elle a écrit un texte à ce propos. À cette époque, les années 50, on avait encore peur et on avait encore une horreur vivante de la guerre. L'accoutumance du danger ne faisait encore ni l'oublier, ni de se dire « cela serait trop tôt, terrible, personne jamais n'osera ». C'est dans ces années-là que j'ai écrit « Le Chevaleroux » ou « Les intentions humaines ». Ces années qui étaient celles de la guerre en Corée, où les États-Unis envoyaient les adaptés à la guerre, et les inadaptés à la paix. On parlait de la guerre bactériologique, et je me demandais en quoi les bactéries étaient plus criminelles que les gaz ou l'atome. C'était l'époque de la chasse aux sorcières. Le sang et les larmes n'étaient pas encore secs, que des gens ont commencé à traquer les communistes. Je le ressentais avec véhémence. Je restais à côté de mes amis qui venaient de périr. Et c'est ainsi que s'explique la façon dont communisme et communistes sont constamment mis en avant dans ce roman. Frédéric Joliot-Curie m'a aidé pour ce roman à ne pas m'enfoncer dans l'analphabétisme scientifique. Ceci ne veut pas dire que cette anticipation est un caractère scientifique. C'est un roman qui joue librement avec les impossibilités.
Voilà. Et donc, le cheval roux, bon, la fable est assez simple. Hein. Donc, il y a eu une explosion atomique. Et il y a deux survivants, hein, un homme et une femme. Et donc, comment le monde va se reconstituer. Mais en fait, on arrive au bout d'un cycle. C'est que c'est 53, hein, et ça va nous faire passer à l'émission suivante. Donc, Staline meurt en 53, et c'est le dernier roman. Je ne vais pas dire stalinien parce que c'est une connotation trop péjorative, mais c'est le dernier roman où il y a quand même une valorisation d'un personnage comme Staline. Bon, il meurt en mars 53. Bon, ben, il y a l'affaire du portrait dans laquelle il n'y a pas qu'Aragon qui est impliqué parce que Elsa va vraiment donner beaucoup dans cette histoire-là. Et là, on va arriver à une autre série d'œuvres dont on parlera, en particulier le monument, hein, qui est décisif. Hein, voilà.
Donc tout ça, c'est pour la prochaine émission. Bah, écoutez, voilà. Je vous remercie. On se retrouvera donc pour la 13e émission, un jeudi matin, une date à convenir. On préviendra nos auditeurs, du moins ceux qui ont Internet par la voix des news de Radio Canu sur le site de la radio. Pour l'heure, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.
Allez, bonsoir à tous.
Bonsoir à tous, bonsoir et à jeudi.